Merci Père. Bonsoir Blanche, bonsoir Denis et bonsoir à tous. Merci déjà d'être aussi nombreux, nous sommes ravis. Alors Blanche et Denis, vous ne le savez peut-être pas, mais la paroisse de Saint-Cloud est une paroisse particulièrement innovante. Alors ça tient évidemment au talent de ses prêtres et vicaires et de ses paroissiens. Et donc on connaît les lanceurs d'alerte hein, dont la presse se fait souvent l'écho. Et ce soir, on a créé le concept de lanceur d'espérance. Voilà, donc ce soir, vous serez nos lanceurs d'espérance, puisque c'est le premier événement, la première soirée qui se tient ce soir dans cette année paroissiale, sur ce thème, sur ce magnifique thème. Alors, pour commencer, sans vouloir être rabat-joie, j'ai une première question, mais je crois qu'il faut qu'on commence par là. Commencer par un obstacle, par peut-être une difficulté. Le thème de cette soirée, c'est entrer dans l'espérance. Mais j'ai envie de vous demander comment peut-on espérer dans un monde qui, on le constate tous les jours, et l'actualité toute récente en Israël en est un cruel témoignage, comment espérer dans un monde qui va si mal? Est-ce que, au fond, ce concept d'espérance ne se heurte pas d'entrer à quelque chose de difficilement surmontable? Alors, Blanche, vous avez écrit dans votre dernier livre, « Grâce à l'émerveillement », une phrase que j'ai relevée, vous dites « Combattre le désespoir, c'est au fond renouveler un acte d'espérance, y compris sur l'homme lui-même. » Alors comment faire? Comment faire cet acte d'espérance, Blanche?
Ça commence fort. C'est la question des questions. C'est vrai que je ne vous cache pas qu'en pensant à cette soirée, lanceur d'espérance, quelle question? Et puis, à une autre que j'ai su qu'elle ailleurs, qui est aussi sur ce thème de l'espérance dans une autre ville. C'est perturbant parce que, effectivement, on vit une actualité difficile, douloureuse. C'est rarement tranquille, mais là, c'est vrai qu'il y a une petite touche de plus quand même. Et on se regarde et je me dis, mais moi, ça va bien, quoi. J'ai ce qu'il me faut, j'ai mes enfants qui vont bien. Je vais aller parler d'espérance, mais à quel titre en fait? Et en fait, il y a déjà aussi un acte personnel de se dire qu'on m'appelle à être témoin d'espérance, peut-être que je le suis, et voilà, sois-le en fait. Donc comment on fait? Ben déjà, c'est on ne lâche pas les missions qui nous sont données en fait, dans nos petits quotidiens, dans nos missions à chacun. On commence par pas lâcher peut-être. Pas abandonner trop vite en disant à quoi bon, quoi. Enfin, voilà, c'est oublier les à quoi bon déjà, peut-être la première chose. Et puis le comment, bah, ça va être l'objet, j'imagine, de toute la soirée, et puis sans doute qu'il n'y a pas une réponse. En tout cas, moi, ce qui m'aide quand je pense à cette question de c'est un monde qui va si mal, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une parole de Benoît XVI dans son encyclique consacré à l'espérance, Spe Salvi. Ça a été pour moi, je crois que c'est le moment où j'ai vraiment compris, parce que c'était l'expérience de travailler sur cette encyclique il y a quelques années, parce qu'on m'avait demandé un parcours, et vraiment c'est une encyclique pas très longue, elle est lumineuse. Il dit que, en fait, le règne du bien définitivement consolidé n'existera jamais en ce monde. Le règne du bien consolidé n'existera jamais en ce monde. On peut se dire, waouh, c'est désespérant, mais je crois qu'on ne peut pas imaginer que Benoît XVI veuille nous désespérer dans une encyclique sur l'espérance. Et en fait, derrière, il explique tout simplement que, en fait, le bien, il est à choisir tous les jours, en fait, parce qu'on est libre, en fait. C'est librement qu'on doit adhérer au bien, tous, chacun, en fait, dans nos combats, dans nos journées. Et c'est pour ça que, puisqu'il y a une libre adhésion au bien, en fait, il y a le mal. Et donc, consentir à cette idée qu'il y a le bien et le mal qui coexistent, ça ne veut pas dire se dire il est là et tant pis, on ne fait rien contre ça. Hein. Mais en tout cas, déjà, il y a quelque chose de l'ordre du consentement qui n'est pas la résignation, mais qui est je prends acte qu'il y a du mal dans le monde et. Déjà, premier pas.
Merci Blanche. Denis, est-ce que du coup vous diriez que pour espérer dans ce monde, comme vient de le dire Blanche, il faut peut-être déjà accepter son imperfection? accepter, comme on vient de le dire, que le mal est présent, mais faire sa tâche, quoi, hein, ne pas lâcher, vous disiez Blanche à l'instant. Est-ce qu'au fond, un premier acte d'espérance, c'est pas d'accepter qu'il y a de la désespérance, peut-être?
En français, on a la chance d'avoir une distinction entre le mot espoir et le mot espérance. Ça n'existe pas en allemand, ça n'existe pas en italien, ça n'existe pas en anglais. Et dans la langue de l'évangile, le grec, ça n'existe pas non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de désespérer au sens de perdre espoir dans ce monde. Mais comme le disait Bernanos, c'est dans le moment où on perd l'espoir que peut naître l'espérance. Pour une raison, c'est qu'il y a deux manières d'espérer. Il y a espérer au sens de l'espoir et espérer au sens de l'espérance. L'espoir, c'est penser que les choses vont pouvoir s'améliorer en ce monde indépendamment de l'action divine. L'espérance, c'est s'en remettre totalement à l'action divine pour que les choses aillent mieux. Et si on s'en remet totalement à l'action divine, alors les choses peuvent aller non seulement mieux, mais parfaitement. C'est ce que dit saint Paul dans la lettre aux Romains. La création tout entière gémit encore maintenant dans les douleurs de l'enfantement. Et le titre de l'encyclique de Benoît XVI, Spécial vie, est tiré de ce texte de la lettre aux Romains qui nous dit que nous sommes sauvés, mais seulement en espérance. C'est-à-dire que nous sommes sauvés, c'est réel, par l'action du Christ. Il reste encore effectivement tout cet espace de notre liberté qui nous fait ou pas consentir à l'action divine à travers nous. Donc pour moi, dans ma vie quotidienne, la foi, Jésus nous dit bien que la foi, c'est ce qui nous permet de laisser Dieu agir à travers nous. Il l'a démontré à chaque instant de sa vie sur terre. Il nous dit bien, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, eh bien vous diriez à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer, il nous obéirait. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, c'est-à-dire la foi, c'est ce qui permet l'action de Dieu à travers nous. L'espérance, c'est se projeter sur un avenir où l'humanité tout entière laissera, à travers chacun, chaque être unique, Dieu agir. Et je crois qu'effectivement, il viendra un temps où la création tout entière aura vécu cet enfantement, parce que ça dépend de l'être humain. Saint Paul dit dans cette même lettre, la création et nous-mêmes, nous attendons la révélation des fils de Dieu. Et le mot révélation, en fait, c'est apocalypsis. Vous entendez bien apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Nous sommes des fils de Dieu, nous attendons d'être faits fils, dit Saint Paul, Et c'est notre espérance. Et nous le sommes, car nous sommes sauvés. Donc, pour moi, tout le malheur du monde vient du fait que l'être humain espère au sens de l'espoir, c'est-à-dire pense que les choses vont pouvoir s'améliorer par l'action humaine. C'est le règne de l'homme. Jésus est venu enseigner le règne de Dieu. Et alors, dans nos propres vies individuelles et collectivement, combien d'expériences de souffrance nous faut-il pour que nous arrivions à comprendre que tout ce qui vient de l'homme sans Dieu crée la catastrophe et que tout ce qui vient de l'homme qui laisse Dieu le traverser et l'inspirer produit les choses les plus merveilleuses. L'espérance, c'est que l'humanité finisse collectivement par prendre conscience de cette dimension-là. Et à cet égard, moi j'ai beaucoup d'espérance, mais malheureusement, à titre individuel, il faut se poser la question pour soi, et aussi à titre collectif, est-ce que nous avons encore besoin de souffrir pour prendre conscience de ça? Voilà.
Merci Denis. Oui, là, vous faites un lien très clair. Vous élargissez déjà le sujet, hein, un lien évidemment entre Dieu et l'espérance. On va y revenir, mais avant d'en arriver là, j'avais une autre question, un peu aussi introductive. Et justement, dans cette question, je voulais vous demander une forme de nous éclairer sur ce qu'on entend par espérance, mais sans donner une définition théologique et sans donner une définition philosophique, pour être désagréable, d'entrer avec vous, Denis. Alors, je vais repasser à Blanche un instant. Et voilà, en fait, d'ailleurs, j'ai relevé une phrase dans votre dernier livre d'où je vais partir.
vous allez répondre à ma place.
La prière ou l'art de recevoir. Vous parlez de la prière des enfants, je crois. En tout cas, je l'ai interprété comme ça. Et vous dites, l'enfance est un temps de connaissance. Celle-ci ne réside pas dans la tête qui est encore vide de savoir, mais dans le cœur. Alors Blanche, ma question c'est, qu'est-ce que votre expérience, qu'est-ce que votre cœur nous dit d'expérience ? Quand on des pistes, c'est quoi pour vous l'espérance en fait ?
S'il faut le résumer en une petite phrase, une petite punchline, moi je dirais que en fait l'espérance c'est avoir mal à la vie et l'aimer encore plus. En fait. Et c'est quelque chose en tout cas que j'ai déjà expérimenté. Voilà, s'il faut le résumer. Après on peut faire des plus grands développements. Hein.
Oui, volontiers, peut-être pas.
Non, mais en fait, Denis vient de dire des choses extraordinaires et c'est vrai que en fait, l'espérance, l'espérance, elle ne déçoit pas. C'est une phrase aussi de l'Évangile et c'est sa plus grande distinction aussi avec l'espoir et avec aussi il existe des fausses espérances. On met parfois notre cœur vers des fausses espérances, des brouillards, des chimères. Et en fait, l'espérance, elle ne déçoit pas. Et ça, je crois que c'est aussi un point d'ancrage qui nous aide à nous rappeler que c'est pas en fonction de nos états d'âme, c'est pas en fonction de nos difficultés que l'espérance s'évapore, en fait. Elle nous porte parce qu'elle est là, elle est déjà là, en fait. Bien compris que en fait, la grande espérance, c'est Dieu. Et donc Dieu est là, en fait. Et si je crois qu'il est à l'œuvre dans ma vie, elle s'en va pas. Peut-être que je peux ne pas la ressentir. Peut-être que je peux me sentir désespérée, déprimée. Et ça, c'est normal aussi, en fait. On est que des humains et des fois, on vit des coups durs. Et c'est normal. Mais c'est pas parce qu'on la ressent pas qu'elle est plus là, en fait, aussi. C'est un peu comme j'aime bien l'image des ondes radio. En fait, là, les ondes radio, elles sont là en ce moment autour de nous, partout. Mais on n'entend pas France Info, les chansons, tout ça, heureusement d'ailleurs. On prendrait la tête. Mais si on met le récepteur sur la bonne fréquence, on entend les ondes radio. Là, en fait, je pense que la grâce, c'est ça aussi. En fait. La grâce, elle est là, elle est déjà là, elle nous précède. On ne l'entend pas forcément, mais voilà, trouver les moyens de ne pas oublier qu'elle est là et de s'y reconnecter.
Avoir foi en l'espérance.
Oui.
Denis, pour vous, merci pour cette... je vous taquinais, merci pour cette... déjà ces grands traits que vous avez pu nous dessiner sur l'espérance. Peut-être de manière... au fond, plus quotidienne, plus incarnée dans votre vie, dans votre expérience, comme Blanche vient de nous résumer très, très directement, pour vous, c'est quoi l'espérance ?
Vous parliez du cœur, et le cœur, c'est une notion tout à fait essentielle. Et le cœur, c'est un lieu de connaissance. La foi, c'est une connaissance du cœur. C'est pas du tout une croyance intellectuelle, c'est une connaissance du cœur. Je me souviens, un jour j'emmenais mon fils à la foire du trône, je le portais sur mes épaules, il avait peut-être 2 ans, et on parlait de sujets un peu métaphysiques, parce que les enfants, si on ne les décourage pas, ils aiment bien parler métaphysique et spiritualité, à leur manière, et à un moment il se met à crier à tue-tête, moi Jésus il est dans mon cœur. Et j'ai pas pu m'empêcher de regarder à droite à gauche pour voir s'il y avait des gens qui avaient entendu. Parce que, à cet âge-là, il n'y a aucune honte et aucune pudeur. Et il avait crié ça avec vraiment tellement d'enthousiasme au sens étymologique, hein, Dieu à l'intérieur. Et en fait, j'ai vraiment senti ce que c'était que la dimension du cœur. C'était vrai ce qu'il disait, c'est-à-dire Jésus était dans son cœur, Jésus est dans notre cœur, le Christ est dans notre cœur, la connaissance de Dieu est dans notre cœur, et la foi, c'est cette connaissance. Et si nous doutons, c'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau de la tête, et c'est que nous, n'avons pas suffisamment accès à ce Dieu qui connaît. Qui connaît vraiment Dieu, qui est en dialogue avec Dieu. Et l'ouverture du cœur, c'est quelque chose qui se cultive. Et l'espérance, comme la foi, c'est une connaissance du cœur. Et très exactement, c'est la connaissance de ce dont Benoît XVI a fait son titre, son encyclique, Spe Salvi, qui veut dire « Nous sommes sauvés en espérance ». C'est ce que dit saint Paul, « Nous sommes sauvés en espérance ». C'est-à-dire « Nous sommes sauvés ». L'espérance, c'est la connaissance que par le Christ, nous sommes sauvés. Et cette connaissance-là, évidemment, immédiatement, il y a tout notre côté intellectuel, mental, qui va venir s'y opposer en nous disant « Mais regardez ce qui se passe dans le monde ». Et de fait, en apparence, nous ne sommes pas sauvés. Si on regarde le monde des apparences, nous ne sommes pas sauvés. Nous sommes encore en manque de Dieu, nous nous sentons séparés de Dieu. Mais il y a un lieu où, en réalité, nous sommes sauvés. Et l'espérance, c'est la connaissance de cela, et être témoin de l'espérance, c'est témoigner du fait que oui, nous sommes sauvés par le Christ. Et donc, être témoin de l'espérance, c'est même pas forcément se projeter dans l'avenir. C'est ici, maintenant, témoigner joyeusement que nous sommes sauvés à un endroit qui est beaucoup plus réel que ce monde des apparences extérieures, l'endroit de l'intériorité, l'endroit du cœur, l'endroit auquel nous sommes invités à accéder par la prière, par l'oraison, par la méditation chrétienne, etc.
Alors ça justement, c'est une question que je voulais aussi vous poser, parce que on vient de parler de mots qui sont importants liés à l'espérance, la foi dans l'espérance, la confiance, le cœur, vous venez de le dire, l'intériorité. Mais est-ce que, je pose la question pour moi, est-ce qu'au fond, ce désir d'entrer dans l'espérance, de vivre de l'espérance et de progresser sur ce chemin est compatible avec mes limites, avec mes doutes, vous disiez, avec mes petitesses? Est-ce que ça m'interdit d'être désespéré, par exemple, de temps en temps? Est-ce qu'en gros, il faut déjà être un super catho ou un super spirituel pour goûter à l'espérance? Voilà. Et peut-être, si vous pouviez déjà nous donner une petite piste de progression, vous voyez, pour faire ce que vous dites, qui me paraît très juste, hein, c'est-à-dire vivre d'abord du cœur, parce qu'en fait, c'est du cœur qui radie l'espérance. Qui radie l'espérance, et qu'elle grandit et qu'elle est visible au monde. Alors, comment faire si je ne suis pas encore, voyez, complètement adepte de l'oraison, si j'ai encore beaucoup de limites, beaucoup de failles, comment je peux m'améliorer?
Blanche.
Ben moi, je sais.
Peut-être. Ouais. Je pense à votre. À ce que. Si vous êtes d'accord pour partager ça avec nous. Époque assez douloureuse que vous avez eue dans votre vie, que je crois que vous avez partagé le témoignage dans l'éclat de vie. Voilà, peut-être ça, ça répondra à ma question, c'est concret. Puisque...
Déjà, moi, je ne sais pas trop ce que c'est un super cadeau. Et j'espère ne jamais trop le savoir, parce que je ne sais pas. Par rapport à mon expérience personnelle, moi je dirais que en fait, c'est pas l'épreuve qui empêche de goûter l'espérance. C'est pas presque au contraire en fait. Je dirais presque en fait, quand on ronronne dans un tout va bien, en fait, on n'a pas besoin de l'espérance. On en a besoin, mais on ne le sait pas en fait. Ou en tout cas, on ne le cherche pas. Mais c'est plutôt quand on commence à vivre un truc un peu dur. Qu'on sent vraiment qu'on a besoin d'une force. Et c'est là qu'on se met à la chercher. Enfin, en tout cas, il me semble. Et c'est là aussi où on est plus disposé, en fait, à la recevoir. Et par la grâce des frères, des amis, quand il y a des gens qui prient pour nous, quand on vit un truc difficile, en fait, l'espérance, elle est vraiment... renouveler de l'intérieur, me semble-t-il, quand il y a des gens qui ont des trucs durs et qui sont capables de dire « je me sens portée », c'est qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la bonne descente, de la grâce, de l'espérance qui vient, enfin voilà, qui nous est donnée et qui est alimentée aussi, pas que par notre propre prière, mais la prière des autres, c'est quelque chose d'extraordinaire, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai, dont j'ai eu vraiment l'image concrète quand je vivais des trucs extrêmement durs. À un moment, je me sentais comme tombée dans des ravins, les ravins de la mort, on parle des psaumes, mais vraiment quoi. Mais ne jamais m'écraser tout en bas parce qu'un filet me revenait. Et ce filet, c'était la prière des autres. Moi, j'étais plus capable de prier quand il m'est arrivé voilà, des choses extrêmement dures. Il y a un moment, même prononcer des mots, c'était pas possible. En fait, quand l'angoisse est à son summum, quand la mort rôde, quand le déchirement, même physique, du cœur, du corps est là, c'est pas si facile. C'est vraiment le cri. Pourquoi tu m'as abandonné, c'est peut-être la seule prière qui sort, et elle est magnifique d'ailleurs. Mais voilà, c'est aussi là qu'on va lever les yeux vers le ciel et avoir accès à cette espérance en fait.
Vous l'avez demandé cette prière? Cette prière des autres, vous êtes allé la quémander cette prière, la chercher?
C'est arrivé, rarement, mais c'est arrivé, en particulier une fois où j'étais hospitalisée d'urgence et où je sentais. Voilà, que la pire épreuve que j'ai jamais vécue de ma vie allait recommencer. J'avais perdu un enfant et j'allais revivre un an et demi ou deux ans plus tard exactement la même chose. Et je sentais que en fait, je ne pouvais pas. Quoi. Et donc j'ai juste envoyé un SMS. SOS quoi. SOS pour rien. C'est tout ce que j'ai fait, c'est parti tout seul. Et je n'avais pas de visite parce que je ne pouvais pas avoir de visite. Et c'était pas grave, j'avais juste un prêtre qui venait. Mais oui, je l'ai fait rarement.
Merci Blanche. Et vous, Denis, hein, parce que vous entendez avant le témoignage de Blanche, avec beaucoup de sérénité par rapport à cette notion qui peut paraître quand même complexe, l'espérance. D'où vient cette sagesse, je dirais, comment dans votre vie vous avez appréhendé l'espérance, voilà. Comment vous êtes entré en espérance, puisque c'est le thème de notre soirée.
Si je devais répondre rapidement, je dirais en désespérant de moi-même. Par contre, je ne me reconnais pas du tout dans l'idée de sagesse. Et alors, l'idée de super cato.
C'est volontairement pour vous, quand
même. Jésus lui-même ne voulait pas qu'on l'appelle bon. Ça décourage toute velléité qui se prétendre bon.
Ni maître d'ailleurs.
Ni maître, je disais, ne laissez personne vous appeler maître, ni même père. Donc, c'est. En fait, oui, c'est en désespérant de moi-même que j'avance dans la foi et dans l'espérance. C'est-à-dire que. Chaque fois dans ma vie que j'ai cru que les choses pouvaient s'améliorer par mes propres forces ou par des forces humaines, ou en comptant sur des choses humaines, je me suis pris des murs et j'ai souffert. Et en prenant des murs et en souffrant, j'ai souvent eu des réactions qui m'ont fait vérifier les immenses failles, c'est-à-dire tomber dans ce qu'on appelle le péché. Parce que le péché, c'est en général une réaction à la souffrance, hein, nous souffrons tous, nous souffrons tous du manque de Dieu. Et nous commettons des actes qui nous inspirent ensuite des remords parce qu'au départ nous souffrons et c'est pareil pour tout le monde. Et quand j'ai constaté que à chaque fois que j'avais compté sur mes propres forces, c'était la catastrophe, j'en ai déduit une petite formule que je me répète encore parfois.
J'allais vous demander de me la livrer.
Quand c'est moi, ça m'ervoie. Mais en revanche, je me suis rendu compte qu'en écoutant vraiment ce que disait Jésus, en le prenant au sérieux, parce que j'insiste là-dessus, on ne prend pas toujours au sérieux les paroles de Jésus. Parce qu'elles sont radicales et elles vont nous chercher à des endroits que nous n'avons pas forcément envie de visiter. Par exemple, quand Jésus dit à l'être humain, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, nous allons devoir nous confronter à notre sentiment d'impuissance personnelle. Et d'ailleurs, lui-même dit, moi, je ne peux rien faire de moi-même. Ça ne veut pas dire que Jésus se sentait impuissant, puisqu'il était traversé par la puissance de Dieu. Justement, il pouvait être traversé par la puissance de Dieu parce qu'il avait cette conscience, moi je ne peux rien faire de moi-même. Donc, nos épreuves, souvent, viennent quand nous avons trop misé sur nous-mêmes. Ou sur les autres, mais ça revient aux mêmes. Quand nous nous attachons à des objets du monde, à des personnes, etc. quand nous croyons que ce qui va pouvoir nous sauver de notre condition humaine, c'est quelque chose qui est dans ce monde extérieur, dans l'horizontal, plutôt que dans la verticale, eh bien l'épreuve vient. L'épreuve ne peut pas nous venir. Et c'est là que nous pouvons désespérer. Et ce désespoir est bon. C'est-à-dire, c'est le retrait d'un faux espoir, dans ce cas-là, le désespoir. C'est le retrait d'une erreur d'orientation de notre désir. Et je rappelle que le mot grec qu'on traduit par péché, amartia, signifie erreur de visée. De même qu'un des trois mots hébreux qu'on traduit par péché, atat, dans l'Ancien Testament, signifie erreur de visée. C'est-à-dire, nous visons mal. Et le désespoir, souvent, c'est le retrait de cette erreur de visée. C'est que pendant un moment, nous ne pouvons plus viser en direction du monde. Alors évidemment, le monde, à ce moment-là, s'empare de nous et vient nous conseiller de remettre la machine en route par tous les moyens possibles. Hein. Là, tu es en dépression, il faut que tu te remettes à désirer en direction du monde. Mais c'est pas, il y a une autre voie. Et cette autre voie, c'est celle de l'espérance. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'arriver effectivement dans un état où, de fait, je désespérais des espoirs que j'avais mis dans le monde. Et dans ces moments-là, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de l'espérance qui a pu naître. Mais ça passe par un profond désespoir de moi-même qui maintenant est joyeux. Et joyeux, c'est-à-dire que, effectivement, quand c'est moi, ça met un doigt, mais je le constate tout le temps. Hein. C'est-à-dire que là, si je commence à parler avec mon ego, ça va être épouvantable pour tout le monde, très gênant. Si je pose juste l'intention que quelque chose me traverse qui vient de plus loin que moi, et comme on est entre nous, on peut le dire, peut-être qu'il vient de Dieu, à ce moment-là, c'est autre chose. À ce moment-là, c'est tout autre chose. Et à chaque instant de la vie, ça peut être comme ça. Donc mon espérance vient, oui, je peux le dire, de la grâce de mes épreuves qui m'ont fait désespérer de moi-même, y compris avec cette dimension du péché qui a été chez moi associée souvent à l'épreuve.
Merci Denis et bravo pour cette excellente transition sur le deuxième thème que je voudrais aborder avec vous maintenant. Voilà. Non mais c'est que ça vient d'un peu plus haut sans doute. Bon, on a parlé là de la notion d'espérance, je crois que vous l'avez bien éclairé, et merci, c'était le premier pas pour entrer dans l'espérance, c'est quand même de savoir un peu de quoi on parle. Il y a, je crois, une autre question qu'on se pose par rapport à cette notion, et vous l'avez dit tous les deux déjà, c'est celle de l'épreuve. Parce que dans nos vies, à un moment donné, on est forcément, même si on est plein d'espérance, on est confronté à l'épreuve, et Blanche vous en témoignait déjà un peu il y a un instant. Pour réfléchir à cette question de l'espérance dans l'épreuve, ou de l'espérance et l'épreuve, j'ai une première question à vous soumettre, qui m'a été soufflée par le père Richard, hein. En rend la paternité, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une valeur à l'épreuve, vous voyez, est-ce que l'épreuve a un sens, est-ce qu'elle a une valeur? Alors, je sais que Blanche vous avait parlé dans une émission de radio sur Radio Notre-Dame il y a quelques mois de la juste place de l'épreuve, et Denis, vous disiez, l'épreuve ne soustrait pas mais elle déplace. Est-ce que vous pouvez nous dire sur cette... le choc entre l'espérance et l'épreuve. Est-ce que l'épreuve font quelque chose?
J'espère qu'on parlera aussi de l'espérance dans la joie.
C'est prévu, c'est le troisième thème.
Je pense que ça nous tient à cœur à tous les deux.
Oui, non, vous avez raison, je pense que.
Mais non, mais l'épreuve, bien sûr.
Il faut qu'on en passe par là.
Déjà, je pense que valeur de l'épreuve, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais. Je pense que déjà, il ne faut pas glorifier les épreuves, il ne faut pas glorifier les échecs, il ne faut pas glorifier les catastrophes. Il y a un mystère du mal quand même aussi, il n'y a pas toujours de réponse au mal, au malheur qui arrive. Donc ça, c'est peut-être la première chose, c'est sortir aussi de cette idée, moi que j'observe quand même beaucoup, j'entends souvent cette espèce d'idée que... il faudrait donner du sens à tout, y compris à des épreuves qui n'en ont pas. Moi, si j'imagine une maman qui se gare, elle ouvre la porte, l'enfant il court, il saute, il se fait écraser, ben, en fait, il n'y a aucun sens. Enfin, en tout cas, l'humaine, il n'y a aucun sens à cette épreuve, de ce deuil. C'est un cas extrême, un peu, voilà. Mais je crois vraiment que ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être quand même se redire. Hein. C'est que il ne faut pas vouloir trouver du sens à tout. Et il y a des choses qui n'en ont pas, parce que sinon on peut tomber dans des contresens ou dans une forme de parler de règne de l'homme, de toute puissance aussi. Et puis des fois c'est un peu facile. Quand quelqu'un vit un truc dur, on ne l'écoute même pas, on lui dit ah oui, mais c'est parce que si ou ça, ou machin, tout de suite, il y a un temps pour tout aussi, il y a un temps pour accueillir une épreuve qui peut-être n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun sens nulle part. Ça ne veut pas dire que la manière dont on va traverser, surmonter, ne donnera pas du sens à ce qui a été vécu, à la découverte, moi je ne sais pas, des forces de vie par exemple, de ce qui nous habite, de cette grâce de l'espérance, de la fraternité des autres, il y a du sens qui peut émerger. Et puis il y a des épreuves qui, comme le disait très bien Denis le grand sage, c'est qu'il y a des espoirs qui sont en fait enlevés, les faux espoirs aussi. Donc parfois il y a des épreuves qui vont, on croit que c'est des tempêtes, mais en fait ça nettoie, je sais plus où j'ai entendu ça il y a quelques jours, j'ai trouvé ça super, il y a des tempêtes qui nettoient nos chemins en fait, et qui nous remettent parfois dans l'axe, qui nous font reposer les bons choix dans nos vies aussi quoi. Donc ça c'est peut-être la première chose que je peux dire sur l'épreuve. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est de se rappeler que on parlait de liberté intérieure, on a une liberté intérieure qui nous permet quand même de choisir des choses dans notre vie, de choisir, pas l'épreuve qu'on n'a pas voulu, hein, de choisir dans une certaine mesure comment on va la vivre aussi. Par exemple, d'éviter de tourner en rond, de se noyer dans les pourquoi. Parce qu'en fait, ça c'est il n'y a pas toujours de réponse à ces pourquoi. Et le comment est plus intéressant. Quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va mettre au monde un fils, bah, elle lui dit mais comment cela se fera-t-il? Je trouve que c'est intéressant ça. Elle ne dit pas mais pourquoi? Elle ne dit pas pourquoi moi, pourquoi faire? Elle dit comment? Je trouve ça beau. Marie a pour beaucoup de choses et pour l'épreuve aussi un beau modèle pour nous. Elle qui a vécu avec un glaive qui lui a transpercé le cœur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, parce que quand on perd un enfant, en fait, on a vraiment cette sensation même physique de vivre avec une épée dans le cœur, en fait. Et je sais plus ce que je commençais à dire au début de ma phrase sur l'épreuve, oui, c'est qu'on choisit quand même un peu, évidemment dans une certaine limite. Mais il y a un espace de liberté intérieure pour choisir comment on veut vivre l'épreuve et pour poser quand même des choix aussi. Et ça, je pense que c'est important de se le redire, parce qu'on n'est pas que dépendant du destin non plus, en fait. Et puis, peut-être dernière petite chose que peut-être je dirais là-dessus, c'est se défaire de l'image aussi qu'on peut trop avoir du dieu pervers qui envoie des vacheries et qui quand même habite parfois dans nos esprits. Une sorte de parabole des talents à l'envers, quoi, à celui qui en a beaucoup bavé, on en donnera encore beaucoup et tout. J'ai déjà entendu une personne me confier ça, mais on me donne des preuves parce qu'elle vivait des trucs mais tellement durs. Et elle me dit à la fin de notre échange, mais il m'est donné de vivre ce que je suis capable de vivre. En fait, ça m'a gênée parce que je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas exactement ça, en fait. C'est plutôt dans l'épreuve, il te sera donné aussi la force et la grâce. Mais c'est pas je te donne plein d'épreuves parce que tu vas les supporter. C'est un peu une vision fausse aussi de cette... je crois qu'on est marqué par cette vision un peu nietzschéenne, tout ce qui tue pas rend plus fort. Moi je préfère largement Saint-Jacques qui me dit si votre foi est forte alors vous serez fort dans l'épreuve. Quoi. Quelque chose comme ça, j'ai un petit flottement sur Saint-Jacques, c'est à peu près ça. Mais c'est un peu ça, quoi. Je crois qu'en fait, on croit que pour endurer, il faut devenir dur, en fait. Mais c'est pas ça la force. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'était hyper intéressant. C'était en fait aussi toute une réflexion sur la force dans la faiblesse. C'est un peu là-dessus que j'avais envie.
Merci de votre question. Oui, Denis, vous avez dit dans l'émission de radio que vous avez faite en commun, l'épreuve ne soustrait pas, mais elle déplace. Il y a une transmutation. Est-ce que ça rejoint un peu ce que Blanche vient nous dire? C'est-à-dire que l'épreuve peut être absurde, en fait. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la bonne question, c'est comment, c'est pas pourquoi. Parce que pourquoi, bien des fois, on n'aura pas la réponse. Est-ce qu'il y a cette idée que l'épreuve peut être absurde, mais que malgré tout, la grâce, voilà, tout ce qu'on vient de se dire, peut nous permettre d'en faire quelque chose, peut nous permettre d'en tirer du fruit. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire quand vous parlez de transmutation? Ou j'ai rien compris.
L'épreuve, la souffrance, ça reste un mystère. C'est le mystère de notre condition humaine. Mais en même temps, c'est un mystère qui n'est pas difficile à appréhender intellectuellement. Dans le livre de la sagesse, il est dit « Dieu n'a pas fait la mort ». Et on peut en conclure, puisque la condition mortelle est la matrice de toute nos souffrances, en réalité, que Dieu ne fait pas la souffrance. Dieu n'est pas créateur de la souffrance. Dieu n'est en aucun cas créateur de l'épreuve. Comment un père tel que Jésus, le Dieu, qui aime ses enfants et qui les aime infiniment là où nous sommes capables d'aimer simplement de manière finie, comment un père qui aime infiniment ses enfants pourrait-il vouloir qu'ils souffrent? C'est absolument impossible, impensable. Donc ce Dieu-là, c'est une projection imaginaire, et d'un imaginaire malade. Et s'il y a une grâce à demander, c'est d'être délivré de cette projection-là. Dieu est amour, dit saint Jean. Et il a résumé toute la voie du Christ en disant ça. Donc Dieu n'envoie pas d'épreuves. C'est le contraire. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Et il faut bien entendre le « nous ». Nous souffrons. Nous, humanité. À partir du Christ, nous pouvons prendre conscience que l'humanité est une. Tous, vous êtes un dans le Christ, dit saint Paul. Et il s'adresse bien sûr aux chrétiens qui ont conscience de cette unité. Mais si nous sommes chrétiens, c'est que nous avons conscience de notre unité dans le Christ. Ça ne veut pas dire que nous sommes un dans le Christ et que les autres ne sont pas un dans le Christ. Nous avons conscience et nous devons témoigner de l'unité. Et de ce fait, si nous sommes tous un, le mystère de la souffrance, c'est que nous tous ensemble, nous avons fait ce choix incroyable de faire l'expérience de nous séparer de Dieu. Et ça fait appel à notre liberté intérieure, c'est dans notre cœur que ça se joue, individuellement, mais c'est aussi nous tous ensemble. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important, avant de nous ouvrir à notre unité dans le Christ, de nous ouvrir dans ce qu'on pourrait appeler notre unité dans le péché. Nous avons tendance, nous autres, et surtout... Surtout les chrétiens, hein, parfois malheureusement, hein, mais nous avons tendance à essayer de savoir qui est plus pécheur qu'un autre. Et à identifier les causes de mal un petit peu partout dans le monde. S'il y a une injonction dans l'évangile qui est présente de multiples manières et à de multiples reprises, c'est de ne pas juger. Et c'est essentiel, parce que nous sommes un dans le péché avant tout. Nous sommes un dans cette décision mystérieuse qui nous séparés de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes aussi un dans la souffrance. Au moment où nous sommes dans le pire de l'épreuve, eh bien, nous sommes un avec l'humanité souffrante. Et quand nous allons bien, si nous ne nous sentons pas un avec les êtres qui souffrent, par exemple en ce moment, sur la terre d'Israël ou en Ukraine, si nous ne nous sentons pas un avec ceux qui souffrent, eh bien, nous manquons ce sentiment de l'unité. Donc, la souffrance est un mystère, mais c'est un mystère qui vient d'un mystère beaucoup plus grand, qui est, mais comment se fait-il que nous ayons pris et continuions de prendre cette décision hallucinante de vouloir vivre séparés de Dieu? Et à partir du moment où on se pose vraiment cette question, on se rend compte que ça se joue, et c'est là que je rejoins Blanche et votre notion de liberté, ça se joue instant après instant, c'est maintenant que ça se joue, c'est toujours maintenant que ça se joue. Parce que maintenant, je décide de me laisser inspirer, traverser par l'amour de Dieu, ou est-ce que je décide de vivre ma vie sans Dieu? Et à ce moment-là, bah, ça génère de la souffrance, et le mystère de la souffrance, c'est aussi, et ça le Christ nous l'a montré, hein, qui a pris le péché du monde, mais aussi la souffrance du monde, et bien c'est, le mystère de la souffrance, c'est aussi que certaines personnes souffrent des souffrances dans le monde, mais au nom de tous, et prennent une part plus grande que d'autres de la souffrance, qui est celle de nous tous, de l'humanité. Et il y a parfois des êtres qui sont complètement perdus en ce monde, perdus dans la souffrance, et qui n'ont même pas la foi explicitement, et qui en réalité portent les souffrances de l'humanité en notre nom. Et c'est pour aussi une raison de plus pour ne juger personne.
Merci Denis, vous avez largement abordé effectivement une question que vous pouvez vous poser. Tous les deux, vous avez déjà beaucoup répondu, mais hein, et Dieu dans tout ça. Dieu, il est là, mais il n'est ni le responsable des épreuves, ni le responsable de la souffrance, mais au contraire, si je résume à grands traits, celui vers qui je peux de nouveau tourner mon cœur pour sortir la tête de l'eau. Alors, pour aller un peu plus loin justement dans ces pistes, on finit ce thème d'espérance et d'épreuve, et on va passer à quelque chose de plus joyeux. Blanche, je vous rassure, j'avais une question, presque une envie de méthode, vous voyez. Alors, j'ai lu que Daniel Johnson, qui était ministre du Premier ministre du Québec dans les années 60, c'est lui qui est l'auteur de cet aphorisme, hein, quasiment. « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Qu'est-ce que vous pensez de cette... c'est une bonne méthode, ça, ou pas, pour sortir de l'épreuve et vivre dans l'espérance, après tout?
Moi, je préfère celle de Denis. C'est moi, je me regarde. C'est moi, je préfère celle-là. C'est vrai que quand je me regarde, je me désole, ça, c'est bien. Mais la deuxième partie, quand je me compare, je me console, c'est ça?
Ouais.
Ça, j'aime moins, parce que je trouve que la comparaison, c'est...
Ouais.
Ouais, voilà, un poison. Voilà. Non, vraiment, la comparaison, c'est pas quelque chose qui est, que je trouve intéressant. Parce qu'on est tous singuliers. Et c'est vrai, c'est fort cette notion de ne pas juger. C'est hyper important, c'est hyper dur. C'est peut-être le truc le plus dur. Et je pense que quand on parle des péchés par omission, ou par pensée, plutôt, je pense que c'est souvent ceux-là qui doivent être dans nos cœurs les plus présents. Après, ça ne veut pas dire ne pas discerner des situations, ne pas. Parce que des fois. Ce qu'il ne faut pas juger, il est aussi un peu un mot valise derrière lequel on abandonne l'autre parce qu'en fait on ne discerne même pas sur ce qui le fait souffrir ou ce qu'il propose ou ce qu'il avance. Et ça, c'est complètement un autre sujet. Mais en tout cas, la comparaison, le jugement, tout ça, ça ne consomme pas du tout en fait. Ou alors c'est du mépris quand même un peu. Je veux dire, si je me console en me comparant, mais c'est ultra méprisant en fait. Enfin, je ne sais pas. Et du coup, la question au début, c'était quoi?
Bah c'est ça, est-ce que comparaison, on pourrait dire, est résolue, vous voyez, pour essayer de précisément, est-ce que ça peut être une recette pour retrouver un peu d'espérance?
Comparaison, non, mais pas.
C'est volontairement pour Rocketeur,
oui, hein,
je ne prends pas exprès, mais il y en a deux.
J'ai bien compris. Non, par contre, ce qui est utile, c'est de se redire ce qui va bien dans nos vies, sans forcément se comparer à d'autres. Mais de faire ces petits temps là intérieurs, en se levant le matin, se redire les enfants vont bien, je vais bien, des choses qui sont hyper importantes et en même temps hyper simples, se redire les belles rencontres qu'on a fait dans la journée, les belles phrases qu'on a entendues, les beaux témoignages qu'on a entreaperçus, la belle pensée qu'on a entendue. Voilà, moi j'en ai noté
l'émerveillement, vous en parliez, cette capacité continuer de voir le beau, quoi. Malgré tout. Enfin,
exactement. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une meilleure recette.
Je suis entièrement d'accord. La comparaison, c'est terrible. La comparaison, c'est, comme le dit Blanche, chaque être est unique. Se comparer, c'est manquer l'unique. Donc c'est manquer l'être de l'autre, c'est manquer l'autre, c'est manquer le prochain. C'est ne rien voir, en fait. Ça, on en a parlé quand on s'est rencontrés à la Deux Notre-Dame. Mais l'émerveillement, et on est tombé d'accord là-dessus, c'est quand on voit l'unique. Quand on voit l'être unique qui est l'autre, on ne peut pas ne pas s'émerveiller. Pourquoi on s'émerveille plus des tout petits enfants, par exemple? C'est parce que l'être unique qu'ils sont se voit. Ils sont pas encore plein de conditionnements, des conditionnements malheureusement qu'on a bien contribué à leur inculquer en tant que parents. Et l'être unique qu'ils sont se voit. Et quand deux êtres s'aiment, c'est l'être unique qu'est chacun qui est merveilleux. C'est ça l'amour au sens de la connaissance, de voir l'autre. Donc la comparaison, c'est terrifiant parce que ça, c'est un bandeau sur les yeux qui empêche de voir. Et puis cette idée de se consoler, quand je vois les autres, je me console. Mais pourquoi se consoler du fait de se désoler de soi-même? J'en vois pas du tout la nécessité ni l'utilité. Parce que, par exemple, Saint-Pierre, au moment où il pleure amèrement, après avoir renié trois fois Jésus, il cherche pas de consolation à ce moment-là. Il cherche pas à se comparer à Judas, par exemple. Parce que là, il pourrait se consoler. Mais s'il se console de cette manière-là, il revient jamais. Et Jésus lui a dit, quand tu reviendras de cette épreuve, toi, affermi tes frères, il a trouvé une force nouvelle, qui est une force divine, qui vient de Dieu, qui est la force de l'Esprit-Saint, dans le fait de se désoler de lui-même. Donc, moi, je préconiserais pas du tout le fait de se consoler de l'autodésolation. Et d'une manière générale, tout ce qui nous soulage est un mensonge. Donc, il n'y a pas à chercher à atténuer la misère de notre condition humaine sans Dieu. Je ne crois pas qu'il faille faire ça. Parce que notre condition sans Dieu est absolument misérable. Et nous sommes absolument misérables sans Dieu. Et tout ce qui peut nous consoler, nous anesthésier de ça, nous détourne de Dieu. Mais quand on a vécu ce moment où on pleure vraiment comme Pierre de la misère de notre condition sans Dieu, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre, le cœur s'ouvre, vraiment le corps peut s'ouvrir. Et on peut vraiment se laisser traverser par l'Esprit Saint. Donc, la consolation, c'est pas du tout une nécessité.
La comparaison.
Oui, mais la comparaison, j'ai dit ce que je pensais de la comparaison. Mais j'insiste bien sur... Là, je parlais de la consolation.
Oui, d'accord.
Je sais que c'est pas forcément facile à entendre, parce que... Et là il faut bien entendre ce qu'a dit Blanche. Je suis pas en train de faire une apologie de la douleur. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais si jamais j'ai une blessure et que je la recouvre d'un produit anesthésiant, ma blessure ne va pas guérir. Notre blessure, c'est d'être séparé de Dieu. Si nous voulons guérir de cette blessure, il faut accepter d'en souffrir pour voir que c'est vraiment une blessure. Donc, la souffrance, pour moi, j'ai parfois entendu dire, et Jean-Paul II l'a dit, qu'il y avait même une vertu salvifique de la souffrance, que la souffrance contribuait au salut. J'ai du mal à entendre ça, c'est sans doute que j'ai pas encore compris ce qu'il veut dire, mais j'ai du mal à entendre ça. Je crois pas que la souffrance soit bonne, mais la souffrance est une conséquence. C'est pas bon d'avoir mal quand on s'est brûlé. Il n'y a rien de bon là-dedans. Mais ça nous aide quand même à pas nous approcher du feu. Donc, il y a une utilité, mais en soi, c'est pas bon de souffrir. Mais c'est meilleur, je crois, quand on souffre, d'en tirer les conséquences pour aller vers une véritable guérison. La véritable guérison, c'est ce que dit Jésus, comme Jean-Baptiste, au début de l'Évangile, c'est retournez vos âmes, retournez-vous vers Dieu. Vous êtes détournés de Dieu, retournez-vous vers Dieu.
Alors, merci, Denis. Oui, vas-y.
En fait, c'est intéressant, Denis, parce que vous dites que vous ne comprenez pas ce qu'il a voulu dire, et pourtant vous l'avez démontré un peu avant, quand vous avez dit dans le monde, il y a des personnes qui n'en ont pas forcément la foi et qui en sont en souffrent énormément, et qui en fait contribuent à nous sauver. Vous avez dit quelque chose comme ça. C'est exactement les mots.
Porte. Des douleurs.
Et bien, en fait, je crois que c'est ça, en fait. C'est que il y a évidemment que la souffrance n'est jamais souhaitable. Mais il y a quelque chose, je crois, de quand elle est offerte, qui peut contribuer à créer du bien, en fait, à mettre du bien au monde. Il y a quelques jours, j'avais mis une table ronde à Lyon, au congrès mission, avec plusieurs personnes. personne, c'était sur la question de la fin de vie. Il y avait Laetitia Calmen, qui est une théologienne, que j'ai rencontrée à cette occasion, qui m'a profondément émerveillée. Il y avait un médecin en soins palliatifs, puis il y avait un aumônier aussi d'hôpital. J'ai écrit un petit article là-dessus dans Aletheia, si vous voulez aller le chercher, parce que ils ont dit des choses extrêmement belles. Et en fait, Laetitia Calmen, elle a parlé à un moment, parce que c'est une vraie mission, on parle de la mission, elle a parlé de la mission de ceux qui sont souffrants, alités, et qui, on peut croire qu'ils ne servent à rien, mais qui en fait en consentant quelque part à ce qu'ils sont en train de vivre, en vivant ce qu'ils sont appelés à vivre, en choisissant la vie finalement, même dans la famille, et en choisissant la vie, c'est oui qui porte au monde en fait, et porte le monde. Et donc c'est auprès de ces plus fragiles, de ces plus souffrants en fait, qu'il y a la plus forte des missions. Et c'est évidemment, c'est pas simple à comprendre, mais je crois qu'on comprendra aussi, elle en a aussi, je trouve que c'est pas simple à comprendre, mais il y a quelque chose peut-être quand même de cet ordre-là. Voilà, je trouve que c'est aussi Edith Stein qui a une parole extraordinaire, qui dit que c'est seulement au paradis qu'on comprendra à quelles âmes on doit ce qu'on est, en fait, ce qu'on est devenu. Et moi, c'est quelque chose que personnellement, auquel je pense très souvent, parce que je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi, et en fait, je sais que probablement que je ferais rien, en fait. Et là, je suis là à parler, super, mais peut-être que si personne priait pour moi, je serais dans mon lit, là, en train de, je sais pas, manger du chocolat, en faire de la connerie à la télé, je sais pas. Moi, j'aime la télé, mais... Et voilà, et ça je trouve ça beau en fait, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu, mais...
Oui, j'entends très bien, et ce qui me touche particulièrement, c'est la souffrance quand elle est offerte. Ça, oui, il y a une vertu salvifique dans l'offrande de la souffrance, ça, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est quand on souffre d'arriver à offrir cette souffrance, c'est-à-dire à l'élever, à la tourner vers Dieu et à l'élever. Et pas se laisser entraîner vers le fond par elle, mais plutôt à accepter d'aller la chercher et de l'élever. Et il y a des êtres, effectivement, qui font ça dans le plus grand secret, et à qui on doit beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, bien sûr.
Merci beaucoup. J'aimerais qu'on aborde peut-être un autre sujet que vous évoquiez un peu tout à l'heure. On va peut-être laisser de côté un peu l'épreuve et réfléchir à ce que Denis vous abordiez un peu à l'instant, puisque vous avez fait beaucoup le lien entre l'espérance et Dieu, bien évidemment, mais j'aimerais peut-être que vous nous éclairiez un peu sur le but ultime de l'espérance, qui ne nourrit pas seulement nos vies d'aujourd'hui, mais aussi notre vie à venir. Cet été, j'étais au festival Marial de Notre-Dame du Lot, et Mgr Barbarin fait quelques enseignements fort riches. Et en commentant la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, il nous disait que le mot qui va avec, pour lui, le mot qui vraiment accompagne l'espérance, c'est la constance. Alors, comment... Je ne parle plus forcément du lien entre l'espérance et l'épreuve. Hein. Je parle d'une dimension peut-être plus verticale de l'espérance. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, Denis, vous l'avez un peu abordé là, en lien avec l'épreuve. Comment l'espérance peut être, Père Richard disait, une vertu, comment la constance dans l'espérance peut justement m'aider, vous voyez, à dépasser les failles dont vous faisiez part et à renouer, ou en tout cas, à dynamiser ma relation avec Dieu.
Saint-Exupéry disait, c'est une phrase très connue, presque trop, hein, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit vraiment qu'avec le cœur. En réalité, si on regarde avec nos yeux, le monde nous laisse peu d'espoir, l'évolution du monde nous laisse peu d'espoir. Moi, personnellement, je n'ai pas d'espoir quand je vois avec mes yeux la marche du monde actuel. Mais il y a le cœur, et quand on descend vraiment au niveau du cœur, eh bien, on rentre dans une connaissance, et la connaissance que donne l'espérance, c'est la connaissance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et
Il y a de la concurrence. Ça m'amène une question pour vous, Blanche. Comme dirait ma fille Blanche aussi, de 19 ans, en vrai. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde très déchristianisé. Et même d'une certaine manière, en France en tout cas, c'est même la culture catholique qui a disparu. Donc, et là, c'est peut-être un moyen aussi de continuer à entrer dans notre année d'espérance. Comment je puis justement, moi, témoigner auprès des gens, alors auprès de mes frères chrétiens, mais d'autres, comment puis-je témoigner de cette espérance? Vous voyez, comment je peux, au fond, incarner cette espérance, la faire rayonner, peut-être même en faire un outil d'évangélisation? Qu'est-ce que vous donneriez comme piste?
Je dirais plusieurs choses. Déjà, effectivement, je crois que notre monde crève de son manque d'espérance, vraiment, dans tous les sens du terme. Et par contre, je ne suis pas sûre qu'en parler, c'est génial d'en parler, hein, je dis ça alors qu'on peut faire ce que tel, mais en parler n'est pas suffisant pour le porter aux autres. Je pense que, et c'est une mission, c'est une sacrée mission qu'on a les chrétiens, de devoir toujours être en mesure de témoigner de son espérance, une phrase qui est extrêmement précise, sûrement dans Saint Paul. Soyez toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous. C'est costaud, hein, c'est des mots. Donc c'est plutôt en fait la manière dont on va vivre, la manière dont on va être capable d'avoir des paroles, non pas sur l'espérance, mais des paroles d'espérance en fait. Et je ne sais pas ce que disait Monseigneur Barbarin sur la constance, il a dû en faire des développements passionnants, mais moi peut-être ce que j'entends derrière, ce que j'interprète, c'est aussi le fait de cultiver l'espérance. Pour pouvoir en témoigner en vie, il y a quelque chose. chose vient de la culture de l'espérance, et aussi de la protéger en fait. Notre espérance, elle est volontairement mise en danger par le, celui qui veut nous décourager, celui qui a envie qu'on dise à quoi bon quoi. À quoi bon, c'est l'autre nom du démon, je crois, Bernanos, qui est un chouette prophète de l'espérance à sa manière. Et en fait, il y a des trucs qui nous désespèrent, mais au quotidien. Il suffit d'allumer la radio, il suffit de regarder, enfin, d'ouvrir tout. Enfin, si vous avez bon moral, vous ouvrez Twitter 5 minutes, déjà, ça va moins bien, en fait, bizarrement. Parce qu'en l'espace de 5 minutes, on peut avoir vu, mais trop d'horreur, en fait. Et du coup, si on se met dans ces... On devient ce qu'on mange, on dit, je ne sais pas si c'est tellement vrai, mais si on mange que des bad news, que de la violence qui est bien réelle, hein, il ne s'agit pas de faire l'autruche, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il y a un moment où on n'est pas capable, nous, de porter le malheur du monde. On ne peut pas, en fait. C'est pas possible. Et donc, il faut savoir couper, je pense, hein, mais avoir une écologie un peu de notre quotidien, de voilà. Il faut savoir couper. Et il faut savoir se donner les moyens de voir aussi tout le bien dont l'homme est capable. En fait, autour de nous, tout le temps, dans nos lieux de travail, dans les associations, dans les communes, dans les... en fait, mon boucher est tellement sympa, tellement lumineux, il parle à tout le monde. Bref, il faut savoir voir aussi tout le bien dont l'homme est capable, et vraiment, malgré notre péché, malgré notre misère, il y a tellement de belles personnes, il y a tellement de belles initiatives. Ça, moi, j'ai vraiment appris depuis quelques années, j'ai la chance de faire des chroniques, on lisait tout ça, de, en fait, d'avoir l'œil attentif. Et même, je me note, j'ai un truc qui s'appelle idée, je sais plus quoi, et dès que je vois une belle initiative, ou, eh ben, je le note quelque part, et peut-être qu'un jour, j'en ferai une chronique, un truc, parce que voilà. Et je crois que c'est hyper important. Et c'est vraiment pas faire l'autruche, hein. C'est vraiment pas la même chose.
Je me suis souvent dit qu'il fallait peut-être créer une chaîne de télé qui serait Bonne Nouvelle Télé. Vous voyez,
et alors... ben en fait, quelqu'un en a parlé il n'y a pas longtemps, un philosophe qui a essayé de créer ça. Ouais. Ça a super bien marché pendant un petit moment et après, ça a fait flop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a aussi une attirance vers le morbide, le truc qui fait peur. Ça va aussi, ça. On est attiré par. C'est désespérant.
Donner un petit mot sur être témoin d'espérance avant qu'on aborde la dernière question et puis on proposera à nos invités de vous en poser quelques ultimes. Témoin d'espérance.
Pour moi, l'espérance n'a pas de rapport avec le fait de voir positivement ou négativement les choses, avec le fait d'être optimiste ou pessimiste. Vous parlez de Bernanos, il a dit sur l'optimisme ou le pessimisme quelque chose que j'aime beaucoup. Être optimiste, c'est être un imbécile heureux. Et être pessimiste, c'est être un imbécile malheureux. Et il laisse entendre que ce qui est intéressant, c'est d'éviter d'être un imbécile. Et en fait, qu'on voit négativement, qu'on voit positivement, c'est toujours nos projections. Ça n'a pas de rapport avec l'espérance. L'espérance, pour moi, c'est une vertu théologale. Ça veut dire qu'elle vient de Dieu. Ouais. Je peux pas en parler autrement. Bon, on est dans un lieu où je pense qu'il est permis d'en parler de cette manière.
À ce stade, vous avez le droit, on peut maintenant faire de théologie.
Mais sans faire de théologie, c'est... si l'espérance vient de Dieu, être témoin de l'espérance, ça passe par une base qui est pour moi la foi. La foi, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui permet l'action de Dieu à travers moi, à travers nous, à travers chacun d'entre nous. Le monde va mal parce que Dieu, dans sa folie de créer un être humain à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire un créateur et libre comme lui, et de se retirer le septième jour, après nous avoir délégué sa création, eh ben, il nous propose une alliance. Il nous propose une alliance, c'est-à-dire qu'il nous demande, comme il se retire de sa création pour nous laisser libre, eh bien, de nous retirer de nous-mêmes pour lui laisser la place. C'est le symbole du Shabbat, c'est ce qu'a accompli Jésus. Jésus était en quelque sorte le Shabbat accompli, parce qu'il était complètement vide de lui-même et il laissait tout à fait la place à Dieu. Il pouvait dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Et C'est pour ça que Dieu donne à travers chacun de nous d'une manière absolument unique, de même que la lumière qui traverse un vitrail se donne d'une manière absolument unique en fonction des couleurs et des formes du vitrail. Et donc, la seule manière pour moi d'être témoin de l'espérance, c'est la foi qui fait que bah, quand le monde me sollicite, bah, je me souviens que j'ai un choix, soit c'est moi qui réponds aux sollicitations du monde, soit par une petite intention intérieure, eh bien, je demande la grâce que ce soit Dieu par ta main. Et intérieurement, c'est plus petit, mais ça fait une différence incroyable. Ça fait une différence incroyable. Cette différence, on la connaît tous. De temps en temps, les choses sont fécondes, sont fluides, sont belles, sont lumineuses, et puis de temps en temps, tout résiste, et puis les conséquences sont mauvaises, et puis on a que de l'adversité, etc., etc. On connaît cette différence, mais est-ce qu'on se rend compte que cette différence est tout simplement liée à l'attitude intérieure qui s'appelle la foi et qui consiste à décider librement que c'est par moi qui réponds aux sollicitations du monde, ça sera l'Esprit Saint, Dieu est à travers nous. Et à partir du moment où on vit de cette manière-là, on devient automatiquement, j'ai envie de dire, un témoin d'espérance. Parce que on voit bien que plus il y aura d'êtres qui vivront de cette manière-là, et nous, chrétiens, catholiques, eh bien, nous sommes appelés très clairement à vivre de cette manière-là, plus il y aura d'êtres qui vivront de cette manière-là, et plus les choses vont s'améliorer naturellement, parce que plus Dieu pourra agir à travers l'être humain. Un des grands arguments de l'athéisme, c'est de dire, mais comment Dieu peut-il laisser exister tous ces malheurs? Mais Dieu nous a créés libres. Il attend que des portes s'ouvrent à l'intérieur de chaque être humain pour pouvoir agir dans ce monde. Et nous qui fermons la porte, après nous reprochons à Dieu de ne pas agir dans le monde. Vous voyez l'absurdité dans laquelle on est. Ouvrons la porte le plus grand possible et là toutes les espérances sont permises. Et pour bientôt.
Merci Denis. Alors Blanche Denis, on arrive au terme de nos échanges. Il y aura quelques questions des participants. Alors vous avez été lanceur d'espérance, vous avez été sage malgré tout, Denis, vous avez été témoin. J'aimerais maintenant que vous soyez des sortes de Saint Ignace de Loyola, vous voyez.
On peut pas
en dire des super cadeaux. Un petit grand aussi encore. Non, en fait, je crois qu'en préparant cette soirée, beaucoup de gens ont à cœur d'entrer dans cette année d'espérance. On vient de le faire grâce à vous et merci. Et d'y entrer aussi de manière très concrète. Alors, Denis, vous avez donné une très belle réponse. Déjà, cultiver sa foi, c'est au fond être un témoin d'espérance. Aimer Dieu, c'est déjà être un témoin d'espérance. Mais je suis un peu plus exigeant et gourmand. Est-ce que vous pourriez nous donner dès demain quelques pistes que peut-être vous avez vécues pour cultiver cette espérance, pour la faire grandir, vous voyez? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est demander aux autres de prier pour moi? Est-ce que c'est une plongée dans la parole de Dieu? Voilà. Comment vous avez fait?
Moi, je donnerais deux pistes. La première, c'est de faire mémoire de moments où on a vécu l'espérance. Parce qu'on a tous vécu l'espérance. C'est obligé. C'est comme l'émerveillement, c'est des expériences qu'on a tous déjà faites. Essayer d'en faire une mémoire, et ça déjà c'est chouette. Et puis, j'ai oublié ma deuxième idée. Je suis carrément fatiguée. Vraiment cultiver l'espérance. Je pense qu'il faut faire l'effort de voir dans sa vie la main de Dieu, en fait. L'action de Dieu dans nos vies. En fait, ça demande de mettre un peu des lunettes, de vouloir, de demander aussi la grâce de voir, en fait. Et des fois, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et de se dire, waouh, là je crois que. Et c'est des toutes petites choses. Hein. Des fois, c'est une phrase de quelqu'un qu'on croise dans la rue qui ne sait même pas, qui vient de répondre à la question qu'on se pose. C'est l'action de la grâce qui passe les uns par les autres. Elle n'a pas tellement d'autres moyens d'ailleurs que de passer par des événements et aussi, du coup, les uns par les autres. Moi, ça m'est arrivé de manière très concrète. Je vivais un truc pas très facile. Où je sentais que j'étais dans. Il y a quelque chose qui n'allait pas en fait. dans une relation que j'avais conflictuelle avec une personne, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et j'arrive à la messe, là où j'habite, la messe du dimanche soir, et la charmante personne qui organise un peu le dimanche soir, parce que c'est moins prévu, il y a moins les lecteurs et tout ça, elle me voit arriver, donc tu peux faire la première vidéo, tu vois, pas de problème. Et puis elle revient après, puis elle me donne un papier, puis elle me dit, j'ai oublié de te dire, c'est spécial pour notre paroisse aujourd'hui, c'est pas la lecture du jour, c'est ça. Et là je prends le papier. Et je me retrouve à aller lire devant toute l'assemblée la claque qu'il fallait que je prenne. Mais vraiment la claque. Amen. Évidemment, personne n'a pu se douter de ce que j'étais en train de vivre. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait dans aucune idée. Mais le Seigneur m'a mis une claque monumentale. Et il est doux, il est délicat, parce que j'arrive à ma place et je dis à mon mari, t'as entendu ce que je viens de lire ? Je m'attendais à ce qu'il se marre, en fait. Et il me dit, bah non, j'ai pas pu, on a dû s'assécher pour toi. J'ai rien entendu. Tu vois, bah, c'est pas grave. C'est marrant. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est demander vraiment cette grâce de voir, en fait, cette pédagogie, cette bienveillance, cette action qui est.
Parce que Jésus, celui qui a les yeux voit, celui qui a les oreilles entend.
Et qu'est-ce qu'on est sourd et qu'est-ce qu'on est aveugle, ouais.
La piste, votre piste, Denis, pour dès demain matin faire grandir et nourrir cette vertu théologale dans nos cœurs.
C'est vrai que là je rejoins tout à fait Blanche, voir les merveilles que la grâce peut faire dans la vie, c'est une première chose. C'est-à-dire que. Tout se passe comme si, ça je peux en témoigner dans ma vie, Dieu n'avait pas besoin d'une grande porte très largement ouverte, mais juste de petites fêlures pour passer. Et heureusement, c'est-à-dire que la grâce passe par tout, comme la lumière qui s'infiltre par les petites fêlures. Et du coup, quelque chose qui peut nourrir l'espérance, c'est à partir du moment où on prend conscience de la dimension de péché, c'est-à-dire de la quantité de choix de séparation plutôt que d'unité que l'on fait chaque jour, ne serait-ce qu'en pensée, dans les pensées, le jugement et d'autres, on peut désespérer, mais en réalité, il suffit d'une toute petite ouverture pour que la grâce opère et passe à travers nous, et passe aussi à travers les autres qui nous entourent. Donc ça c'est une source d'espérance, mais en même temps, et ça n'est un paradoxe qu'en apparence, désespérer de soi, c'est-à-dire de ce qui vient de soi, moi, origine des choses, ça c'est une source d'espérance pour moi, alors ça c'est la plus grande source d'espérance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je désespère de ce qui vient par mes propres forces, eh bien je ne peux plus espérer qu'en Dieu, et là je peux voir des merveilles être accomplies. Et la vie devient féconde. Moi, à titre personnel, moi, Denis, je suis totalement incapable de la moindre fécondité. Au contraire, si ça vient que de moi, les choses sont stérilisées partout. En revanche, dès qu'il y a quelque chose qui passe à travers moi, alors là, la fécondité est miraculeuse, tout simplement, parce que par la foi, nous sommes tous appelés à être vecteurs de miracles, et à partir du moment où le miracle se réalise dans le monde, on ne peut pas ne pas être dans l'espérance.
C'est vous dire que je crois heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière.
Ben oui.
C'est la dernière des béatitudes. Merci infiniment, Blanche, merci beaucoup, Denis. Je vais passer maintenant peut-être le micro pour une ou deux questions rapides, puisqu'on est assez en retard. Enfin, on est pas tout, encore en retard, mais on va aller très rapidement.
Un grand merci.
Un grand merci.
J'ai aussi une question. Donc, si je peux commencer, je suis plutôt désolé. On est en train de faire une lecture. Continue de spécial à travers la vidéo PEPS, si vous n'êtes pas encore inscrit, je fais un petit pub, donc une fois par mois, une vidéo où on finit l'année en faisant tous les chapitres. Donc, et là, le premier numéro, numéro 16, il dit l'espérance n'est pas informative, mais performative. Donc, c'est pas juste une information que je reste là, mais performative. Et ça me fait penser, si on entre en séance, on veut arriver quelque part, Dieu aussi veut nous amener de faire Qu'est-ce que ça peut être, un portrait robot de quelqu'un qui est plein d'espérance, qui, je pensais à un ballon QTC de submerger dans l'eau, de noyer le ballon. Et dès que tu lâches, on voit toujours les surfaces. Et plus profond tu le mets, il y aura vraiment peut-être qu'il prend plus de temps, il arrive toujours au haut. Et quand il manque de l'air, peut-être c'est là qu'on va chercher l'air pour être regroupé de l'Esprit Saint. Est-ce que vous avez une réponse à cette question?
Sur la poussée d'Archimède. Je crois que quelqu'un qui est plein d'espérance, c'est d'abord quelqu'un qui est plein d'amour, en fait. Je pense que c'est la première réponse. Et j'ai un peu écrit là-dessus dans mon livre sur l'émerveillement, alors c'est moi, donc Benoît XVI, je pense, hein, mais ça se défend un peu, j'espère, quand même. J'ai cette image de l'espérance de dire que c'est un futur qu'on plante dans le présent et un présent qu'on plante dans le futur. Un futur qu'on plante dans le présent, c'est cette idée, là qui n'est pas de moi, qui est de Jésus, que, en fait, en tout cas, que cette connaissance qu'on est chrétien, que notre vie, elle ne finit pas dans le néant. Que notre vie éternelle, elle a déjà commencé. Et quand on a perdu quelqu'un de très proche, c'est quelque chose qu'on comprend mieux déjà, en fait, qu'on vit une vie déjà éternelle. Et donc, ce futur, en fait, qui est là, et bien, il renforce en fait notre présent. Il n'est pas pour se dire ouais, vivons la vie éternelle et tout ça. Non, il est aussi pour renforcer notre présent. Et inversement, c'est planter un présent dans le futur. C'est vouloir, enfin c'est savoir qu'on est attendu pour cette vie éternelle, mais c'est aussi vouloir y aller. Et donc c'est orienter sa vie vers ce lien, vers cet amour, vers ce combat spirituel, on a quand même un peu parlé entre les lignes. Hein. Et c'est vouloir poser des actes au quotidien, dans le présent, qui m'oriente vers ce futur. Et donc forcément, futur et présent sont renforcés l'un dans l'autre. Et c'est ça qui a poussé vers chez moi.
Oui, l'espérance est performative au sens où elle accomplit. Nous sommes créateurs, nous sommes créés à l'image de Dieu au sixième jour, à un moment où tout ce qu'on sait de Dieu dans la Bible, c'est qu'il est créateur, donc à tout le moins, nous sommes créateurs. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas ne pas créer. C'est une sacrée responsabilité, une responsabilité sacrée, que d'être créateur à chaque instant. C'est-à-dire que si nous sommes dans la négativité, dans le jugement, dans la séparation, nous créons de la négativité, de la séparation, et le monde exprime la séparation. Mais inversement, à chaque fois que nous sommes dans l'espérance, c'est-à-dire au fond dans la mémoire que nous sommes sauvés, ce que nous créons, c'est justement la réalisation de cette espérance. Nous la créons dans le présent, l'espérance c'est quelque chose. De toute façon, nous ne pouvons vivre que l'instant présent, et l'instant présent est le lieu où Dieu nous donne rendez-vous. Il n'y a pas d'autre lieu où nous donne rendez-vous. Et c'est dans l'instant présent que nous semons les graines de l'avenir. L'espérance porte aussi sur l'avenir. L'espérance donne sens à notre vie. Moi, personnellement, la foi me permet de vivre à chaque instant, parce que sans la foi, je serais incapable de vivre ma vie telle que je désire la vivre, c'est-à-dire sans laisser Dieu agir à travers moi le plus possible. Mais l'espérance donne sens à ma vie. L'espérance, c'est ce qui donne du sens, parce que l'espérance me rappelle que nous sommes tous un, et que chacun de nous contribue à cette providence divine qui nous amène vers ce que nous désirons tous infiniment. Et du coup, voilà ce que performe, ce qu'accomplit l'espérance. C'est de donner le sens de la vie, de donner le sens de notre vie d'être unique, qui contribue d'une manière unique à cette œuvre divine collective dans le Christ qui est la nôtre.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, quelqu'un qui voulait.
Oui, bonsoir, merci pour ce témoignage. J'ai appris à la Fondation de Thomas. Et la Fondation de Thomas, sa devise, c'est s'engager pour grandir l'espérance. Et je suis d'accord avec vous là, parce que mon travail, c'est de voir les associations toutes les semaines. Et je rentre en plein d'espérance quand je vois les initiatives, l'amour qui est versé par ces associations. D'abord, les séances, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on avance. Et les séances, c'est un mouvement. Nous sommes mis en route. Alors, bien sûr, nous sommes mis en route dans notre fils, parce que nous savons qu'il est mort. Parce que nous savons qu'il est sauvé et que nous sommes souvent. Mais les séances, c'est vraiment, c'est le mouvement. Voilà ce que je veux dire.
Par résonance, on peut le contacter chez les autres, et c'est pour ça que c'est très important pour nous de manifestation de ce salut qui est déjà là, c'est-à-dire de l'amour sur terre. C'est très important de le voir, de le percevoir. Et pour ça, effectivement, on ne peut pas trop se nourrir de la négativité médiatique, de toutes les formes de négativité. Et c'est important de se souvenir que même au-delà de l'insuffisance de ces manifestations, eh bien, le royaume des cieux est à l'intérieur de nous. Et il y a quelque chose de totalement accompli, de totalement sauvé à l'intérieur de nous tous. Tout est grâce, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux. On peut sans cesse demander la grâce de voir en l'autre l'être sauvé, de voir en soi-même l'être sauvé, et d'entrer en relation avec l'autre en tant qu'il est sauvé. Et à ce moment-là, il y a vraiment une joie qui monte, le cœur se dilate, et une véritable joie à communier déjà avec le royaume.
Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on va malheureusement avoir besoin d'arrêter notre soirée là. Donc, un grand merci à Jean-Jacques. réconciliation